On relève la sauce. Un peu de sel, un peu de poivre. Et quelques épices. À la découverte de la vie associative mayonnaise.
Et bonjour à toutes, bonjour à tous, et vous êtes bien toujours sur l'autre radio et bienvenue dans l'émission On relève la sauce, émission où je vous propose de découvrir les ingrédients de la vie associative mayonnaise. Alors, pour ce mois d'avril, on va se poser la question de l'impact environnemental de son association et surtout de voir quels sont les principaux axes ou critères qui permettent de se questionner sur ces enjeux avec l'exemple aujourd'hui et les nombreuses solutions que met en place l'association Synergie 53. Et pour ça, on va donc recevoir Laurent Pinjot et Rémi Bouvier qui sont tous les deux administrateurs de cette association et voir ensemble comment agir sur ses consommations d'énergie, que ce soit pour ses bâtiments, ses activités ou même son site internet. On garde bien sûr nos chroniques et aujourd'hui Nora Duval de l'APES 53 nous parle de rescrit fiscal et pour finir, on retrouvera Christophe Tropeau pour un petit coup d'œil dans le rétro et aujourd'hui Christophe nous évoque l'impact du cyclisme, et oui du cyclisme, dans l'histoire des associations des communes rurales mayonnaises. Allez, c'est parti, en ouverture de ce menu, on commence par cette question. Comment agir sur l'impact environnemental et surtout énergétique de mon association? Alors même si cette question n'est pas encore totalement identifiée dans tous les esprits, malheureusement, celle des enjeux environnementaux est de plus en plus abordée et considérée comme importante ces dernières années. Et oui, maintenant les chiffres sont là et ça y est, la technique de l'autruche ne marchera plus longtemps. Mais l'association Synergie 53 n'a pas attendu cette récente prise de conscience pour s'emparer de cette question, puisque l'association existe depuis, on va dire, plus de 20 ans. Et par ses différents dispositifs et agréments, elle sensibilise, accompagne, propose des actions vers les scolaires, les habitants, les collectivités, les associations de la Mayenne pour encourager à la maîtrise de l'énergie, le développement des énergies renouvelables locales et plus largement le développement durable. Mais afin de contrer l'adage des cordonniers les moins bien chaussés, Synergie 53 s'est aussi questionné sur ses propres pratiques. Et pour nous partager cette expérience, on reçoit aujourd'hui Laurent Pinjot et Rémi Bouvier, tous deux administrateurs de cette association. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Peut-être pour contextualiser encore plus cette démarche, est-ce qu'on peut rapidement justement connaître un petit peu les moyens dont dispose l'association, que ce soit en bâtiment, en équipe ou les différentes actions, et d'où est venue un petit peu cette idée et envie de s'intéresser à vos propres impacts environnementaux?
Alors déjà, Laurent, nous sommes environ 8 administrateurs, il y a 7 salariés et on a un bâtiment qu'on mutualise avec d'autres associations, les CIVAM. Et après, il y a d'autres antennes en Mayenne pour les agences France Rénov. Mais voilà. Mais après, c'est surtout nous, le bâtiment a changé, le siège dont on s'occupe essentiellement.
Bâtiment qui fait environ 200 mètres carrés.
Alors, c'est peut-être pas le cas justement de toutes les associations, mais là vous possédez un bâtiment, enfin vous utilisez un bâtiment et un espace physique. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir un regard et maîtriser entre guillemets sa consommation d'énergie?
Donc l'idée de départ, c'est de se dire, comme vous le dites, c'est d'identifier nos consommations pour voir un peu comment on se positionne, parce que c'est facile de donner des idées aux autres, mais faut-il être capable de se mettre en œuvre soi-même? Donc dans l'idée, c'était de mesurer l'ensemble de consommation du bâtiment, aussi bien en consommation électrique comme pour le chauffage, et essayer d'identifier des actions possibles pour économiser.
Comment est-ce qu'on fait justement pour mesurer? Est-ce qu'il y a des outils spécifiques? Comment est-ce que ça marche? Il faut que j'appelle EDF ou comment est-ce que ça fonctionne?
Oui, alors c'est vrai que nous, on a une situation un peu particulière dans le sens où on a développé un outil de mesure des énergies, donc aussi bien pour l'électricité. On a une petite production de voltaïque en autoconsommation qui est de 650 watts. On a une chaudière granulée qui a été rentrée récemment, il y a un an et demi maintenant. Donc, dans l'ordre des choses, on a commencé par mesurer les productions du voltaïque, la consommation d'électricité, pour identifier la part, entre guillemets, que l'on produisait nous-mêmes et du coup qu'on n'avait pas à acheter.
Pourquoi cette importance de mesurer en fait, parce que là, c'est vrai qu'on parle de réduire les choses, mais peut-être, enfin voilà, la mesure, elle sert à quoi ?
On s'est dit le fait de mesurer, de mettre les mesures à disposition de tout le monde, ça permettait de prendre à chacun de prendre conscience de ce qu'il se passait. Parce que le fait de mesurer, le fait de voir, le fait de quantifier, tout de suite, ça nous donne une petite idée de ce qu'il se passe. Et du coup, prendre conscience. Et donc, avoir des actions qui peuvent se mettre en place en conséquence.
Et même identifier aussi des... Par exemple, une surconsommation à un moment donné, ça peut être aussi mettre des alertes. Enfin, c'est ça aussi, c'est de pouvoir anticiper des problèmes qu'on peut avoir. Voilà.
Partir avec des données, quoi, tout simplement,
oui,
voilà, sur cette dynamique-là. Alors, qu'est-ce que ça a donné ? Quelles étaient les surprises, justement, ou les choses sur lesquelles vous dites on est déjà bien, mais par contre, ça, ce serait bien qu'on améliore.
Bon, en mesurant, on s'est aperçu qu'il y avait certains postes de consommation qu'on n'imaginait pas, comme par exemple l'éclairage. Il y avait une consommation assez importante, mais qui était en réalité beaucoup plus importante que ce qu'on imaginait. Et donc ça, c'est un des plans d'action qu'on peut faire, c'est de réduire un peu cette part d'éclairage, en changer, diviser par exemple le nombre de plafonniers. Enfin voilà. Et puis aussi c'est d'optimiser l'énergie par rapport aux panneaux solaires. Enfin justement, c'était de se dire vu qu'on est en autoconsommation, s'il y a une énergie qu'on n'utilise pas, bon, elle est entre guillemets perdue, enfin elle est utilisée par quelqu'un d'autre, mais l'idée c'est de se dire comment on peut optimiser cette énergie qu'on produit gratuitement pour alimenter le chauffe-eau ou alors alimenter un ordinateur portable qui est sur batterie.
Bah, comme vient de le dire Laurent. C'est une grosse mauvaise surprise, hein, l'éclairage plafonnier des bureaux pris individuellement, qui était donc une consommation énorme, hein, je dirais non négligeable. Donc là, c'était la mauvaise surprise. Là où on s'attendait à être plutôt économe, de par la technologie en place, eh bien, on n'était absolument pas bon, quoi. Donc là, un champ de réflexion va se mettre en place, parce que remplacer, c'est très bien. Mettre plus économe, ça, il n'y a pas de problème. On a l'action possible. Maintenant, ça a des coûts. Donc ça nécessite réflexion, prendre un peu de recul et se dire, oui, mais avec quel budget, comment, et voilà, c'est... Inévitablement, il faut se poser la question, mais c'est sûr qu'on a identifié des pistes d'amélioration.
Et c'est un impact carbone aussi, le fait de changer, parce que c'est quand même aussi un équipement qu'on reproduit, donc après, il faut poser le pour et le contre aussi d'un changement par rapport aux consommations que ça génère, donc voilà, c'est, je pense, une réflexion globale à se poser en fait.
Donc le deuxième champ d'action, le deuxième point qu'on avait identifié, c'était, donc on expliquait, on a une production photovoltaïque, donc de 650 watts, Donc globalement, dans la semaine, donc sur les 5 jours ouvrables, l'ensemble est consommé, sauf que le week-end, les bâtiments sont fermés, l'ensemble du personnel est en week-end, hein, et donc du coup, on a 2 jours où on n'a plus de consommation, ou très peu de consommation. Donc là, on a un champ de réflexion et un champ d'action qui va se mettre en place pour consommer cette énergie, mais de façon, on va dire, logique. Exemple, on a...
Ne pas laisser allumer la lumière pendant tout le week-end juste pour consommer, quoi. Exactement.
Voilà, exactement. Ouais. C'est du ridicule.
Tout à fait.
Donc, par exemple, on a décidé de... Il y a une petite mare qui a besoin d'un complément d'eau dans les périodes sèches, enfin, une période d'été, on va dire. Donc, dans l'idée, c'est de faire fonctionner la pompe qui va alimenter cette mare pendant le week-end et non pendant la semaine. Donc, du coup, on va consommer une petite partie de l'énergie pendant le week-end. Pour alimenter cette mare à canards, enfin, et grenouilles, plein de pas de petites choses. Et le deuxième champ d'action, ce serait d'alimenter notre ballon d'eau chaude dans le week-end, justement pour qu'il fasse son appoint pendant cette période de nos consommations.
Recharger, faire des bornes spéciales pour, si on a trop de consommation énergétique, de pouvoir alimenter certaines batteries, des moments stratégiques. Quoi.
En fait, si j'en comprends bien, vous avez identifié qu'il y avait des consommations qui pouvaient être décalées dans le temps, qui pouvaient être, plutôt que de le faire sur la semaine, comme il y avait eu moins d'énergie d'utiliser pendant le week-end, pourquoi pas se servir de ce temps-là.
C'est exactement ça.
Parce que peut-être que vous avez déjà beaucoup de choses qui sont appliquées, mais est-ce qu'on laisse les ordinateurs allumés, enfin tout ce... Est-ce que ça, c'est déjà des choses qui sont des pratiques qui sont faites en interne?
Évidemment, il y a la Synergie a mis en place des éco-gestes. Enfin, les salariés mettent en place, enfin, il y a des éteindre la lumière, éteindre les multiprises, économiser l'eau, le tri sélectif. Enfin voilà, il y a d'autres actions. Enfin, il n'y a pas que le bâtiment, évidemment. Il y a la politique d'achat, enfin sur acheter des produits bio locaux, enfin il y a tout un ensemble pour être cohérent sur tout quoi. Et il y a aussi la mobilité, enfin faire du covoiturage, enfin voilà, inciter le plus possible à tous les éco-gestes en fait.
Moi je peux citer plusieurs exemples hein, où on pratique le covoiturage le soir pour certaines réunions par exemple. Hein. Donc ça nous est plus facile, nous, en tant que non-salariés, hein, administrateurs, où ça se passe en fin de journée, mais aussi pratique le covoiturage dans les moments de travail, où là, c'est quand même un petit peu plus compliqué, donc ça nécessite un peu plus de réflexion, mais bon, ils arrivent à faire des actions dans ce sens-là, quoi. Donc c'est...
En tout cas, ancrer cette pratique pour qu'elle soit simplifiée.
Oui, c'est ça, c'est vraiment un peu le... Et c'est un peu le... Je veux dire, le nerf de la guerre, quoi. C'est, faut dire ce qu'il est. C'est, on est là pour donner des bons enseignements, des bonnes pratiques. Faut-il les pratiquer par toi-même? Et là, je pense que c'est vraiment ce qui se met en place, quoi.
Et justement, sur ces bonnes pratiques, il y a aussi la thématique des outils numériques, du site internet. C'est souvent des consommations qui sont invisibles, même si elles se sont développées, là, surtout après Covid-19, sur tout ce qui est les outils visio et autres. Comment est-ce que vous avez regardé ça, justement, vous, à Synergie?
Alors, déjà, tout est parti. Là, on avait été sollicité pour participer à un hackathon avec le comité 21, il y a presque 2 ans maintenant, je pense. Et donc, on avait pris l'exemple du site internet de Synergie en cas d'école. Et donc ça a permis de voir les actions qu'on pouvait mener, donc la taille des images qui était trop lourde, pouvoir accéder au site internet avec un faible débit, parce que voilà, c'est aussi des contraintes techniques aussi pour pouvoir accéder. Et donc, sachant que on avait quand même refait le site internet peu de temps avant, donc il y a certaines actions qu'on va faire un peu plus tard quand on refera une autre version du site internet, mais on sait qu'on les a identifiées. Il y a certaines actions qu'on a déjà faites dès maintenant, par la réduction des images, ça a permis de diviser par deux notre bande passante, même si on n'a pas non plus énormément de visiteurs par jour. Mais voilà, l'idée, c'est aussi de montrer l'exemple à d'autres associations qui, elles, auraient par exemple une activité numérique plus importante que la nôtre, d'un champ d'action possible. Et il y a aussi par rapport à tout ce qui est des matériels informatiques de l'association, où on essaye d'en prendre soin pour allonger la durée de vie des équipements et de les réparer quand on peut. Et voilà, donc c'est aussi des actions importantes.
Donc il y a l'aspect, là sur le site internet, le fait de penser à la bande passante, à la consommation des données, et donc de ne pas forcément mettre des images énormes, hyper de gros volume,
voilà,
en tout cas.
Voilà, et puis faire du ménage, enlever les vieux articles qui ne servent plus à rien, parce que en fait derrière il y a aussi de la sauvegarde, et donc la sauvegarde, il faut aussi la déporter des fois sur d'autres serveurs, donc c'est d'autres impacts en cascade qu'il y a derrière. Donc, et même derrière, si on, par rapport aussi à la consommation électrique du site internet, c'est aussi le nombre qui fait que si on diminuait tous notre impact des sites internet, ça pourrait réduire aussi la consommation électrique du refroidissement des data centers. Et voilà, donc c'est tout un ensemble en fait.
Toute cette consommation qui est justement, comme je disais tout à l'heure, un peu invisible en fait, qu'on ne peut pas mesurer directement chez soi. Et justement, et aussi sur le matériel informatique.
Allonger vraiment la durée de vie, on répare dès qu'on peut, c'est faire attention aux équipements, bien les étiqueter, le suivi, l'entretien du matériel, c'est important en fait pour justement... qui dure le plus longtemps possible et qu'on n'ait pas besoin de racheter un équipement. Et quand on rachète, c'est aussi de se dire, est-ce qu'on peut acheter d'occasion, du reconditionné, voilà.
Pour résumer donc, cette démarche faite par Synergie, on passe d'abord par la mesure, Ensuite, on regarde quels sont vraiment les gros points d'activité, comment est-ce qu'on peut y travailler et quelles solutions peuvent être apportées, en soit en différant les consommations, soit justement en appliquant les éco-gestes et les bonnes habitudes, je dirais, pour diminuer les consommations. Et on applique ce champ à l'ensemble des activités, que ce soit justement de la consommation des bâtiments, mais aussi dans le cadre de ces activités par exemple le covoiturage, les achats responsables, et aussi de regarder un petit peu l'architecture, la consommation, ainsi de suite, de nos outils numériques tels que le site. Si jamais là, j'ai envie d'aller un peu plus loin et de questionner aussi ma propre association, est-ce que je peux vous contacter? Est-ce que c'est les choses, est-ce que Synergie 53 peut m'accompagner dans cette démarche?
Oui, tout à fait, ouais. Synergie
fait de l'accompagnement, donc ouais, tout ce qui est information et support dans la consommation d'énergie, dans le conseil.
Et si jamais justement on veut vous contacter, comment on fait?
Alors vous pouvez soit sur le site internet où il y a toutes les coordonnées, donc sur synergie53.fr, ou alors appeler le 02 43 49 10 02, ou alors envoyer un mail à bonjour@synergie53.fr.
Merci à vous Laurent Pinjot et Rémi Bouvier, vous êtes administrateur de l'association Synergie 53.
Merci à vous également.
Merci.
Et évidemment toutes ces coordonnées, vous pourrez les retrouver sur le podcast de cette émission sur notre site internet. Et avant de retrouver nos chroniques, je vous propose une petite respiration musicale.
Relançons la consommation, déployons les chars à bifton, avec du light, avec du verre, peut-être qu'on pourra passer l'hiver.
Ils attaquent avec des sols. Écartez-vous, un melon calibre 3.
J'ai déniché 4 saucissons pour le prix de 2.
Bravo. Faites attention, il y a 20% de réduction sur les luminaires au deuxième étage. Prenez l'escalator, rapidement.
Chef, j'ai trouvé du papier hygiénique triple épaisseur. Pour 12 rouleaux achetés, vous en avez 16.
Ce serait très très bien qu'on se les procure.
Oui, procurons-nous les. Nous les. Procurons-nous les.
D'accord, prenez 4 hommes et avancez-vous vers le caddie blindé qui se trouve sur la droite. Sergent Fred, il faut prendre donc 16 rouleaux de papier hygiénique. Écoutez bien, il en va de votre évolution dans l'armée des prix. Oh,
si vous trouvez moins cher ailleurs, vous pourrez vous faire rembourser.
Dans un rayon de 30 km, on offre le champagne.
Moi, les boules de Fukushima, je te les écoule, fissa, fissa. Ça fait rustique dans du rotin, un camembert dans son écrin. À vous l'intégrale de King Kong, cette paire supplémentaire de tong. Y'a du génie dans le transgénique, du rêve dans le pâté biologique. Une petite guerre ou des élections, des hommes sandwich à l'unisson. Les produits de première nécessité, c'est là-dessus qu'on va se rattraper.
Relève la sauce.
Et on poursuit cette émission avec désormais la fameuse chronique de la PES avec Nora. Bonjour Nora.
Bonjour Anthony.
Alors aujourd'hui, sujet épineux, car les mots fiscal et rescrit vont être prononcés. Mais pourquoi cela peut nous intéresser en fait?
Et oui Anthony, ça peut nous intéresser parce qu'en tant qu'association, les dons font partie de vos ressources. Donc, pour encourager la générosité des donateurs, les organismes d'intérêt général ou d'utilité publique, donc souvent les associations, peuvent leur proposer de bénéficier d'une réduction fiscale. C'est un vrai plus pour la solidarité. Mais je vais vous expliquer là dans cette chronique comment ça fonctionne et est-ce que vous êtes dans les clous ou dans les choux. Alors, quelques notions d'abord pour savoir de quoi on parle. Quand un particulier ou une entreprise vous fait un don, vous lui remettez un reçu fiscal. Et donc, un reçu fiscal est un document qui permet au donateur de bénéficier d'une réduction d'impôt. Contrairement aux idées reçues, il n'y a pas de label, pas d'habilitation pour attester de l'éligibilité au régime fiscal du mécénat. Il appartient en fait à l'organisme d'attester sous sa responsabilité qu'il répond effectivement aux conditions fixées par le Code général des impôts. On verra tout à l'heure de quoi il s'agit. Et c'est là que nous arrivons à la démarche d'interrogation de l'administration fiscale, dite de rescrit fiscal, qui n'est d'ailleurs pas obligatoire. C'est pas obligatoire donc, mais c'est largement conseillé. Vous me suivez toujours, ça va ?
À peu près, là, à peu près. En tout cas, donc, le rescrit fiscal, un peu barbare comme terme, mais de quoi s'agit-il ?
Le rescrit fiscal, c'est une procédure qui permet d'obtenir une réponse de l'administration fiscale à une question sur le sens et la portée d'un texte ou sur l'interprétation d'une situation de fait. Et en fait, c'est une procédure ouverte à tous, particuliers, professionnels, associations. Mais là, ce qui nous intéresse, et ce qui intéresse les associations, c'est deux procédures de rescrit. Le rescrit fiscalité, donc là, on interroge sur le caractère lucratif des activités de l'asso. Et puis, ce qui va nous concerner aujourd'hui plus particulièrement, c'est le rescrit mécénat. Donc là, c'est au profit des organismes qui reçoivent des dons. L'idée, c'est d'interroger sur l'habilitation à recevoir des dons et à délivrer donc des reçus fiscaux.
Mais alors, pourquoi faire la demande, en fait ? Puisque, si j'ai bien compris, c'est pas obligatoire.
Eh bien, pour s'assurer que votre association ou une fondation répond bien aux critères pour établir des reçus fiscaux, qui ont donc droit à des réductions d'impôts. Et donc, ça évite derrière les sanctions, si jamais ce n'était pas le cas.
D'accord, ok. Et quand est-ce qu'on fait cette demande ?
J'ai envie de vous dire le plus tôt possible. En effet, les délais peuvent être assez longs. Donc, avant la réalisation de l'opération, avant la date de paiement de l'impôt, avant le délai pour faire une déclaration, c'est ce que vous avez retrouvé sur les sites en question. Les délais de réponse sont de 3 mois pour un rescrit fiscalité. Le rescrit mécénat dont on parle, lui, est de 6 mois, d'où l'intérêt de s'y prendre en avance, sachant que le délai peut repartir dès qu'une demande de documents complémentaires est demandée. Vous pourrez solliciter un deuxième examen si jamais vous en avez envie. Et puis, pour faire la demande, je vous citerai quelques ressources en fin de chronique. En fait, il s'agit de faire une demande écrite par lettre recommandée à la Direction départementale des finances publiques, la DGFiP, avec votre nom de l'association, l'adresse et d'autres informations type numéro de téléphone, mail, etc. Les formulaires types sont sur association@gouv.fr. Si je devais vous donner quelques conseils, il faut que ce soit le représentant légal qui renseigne le document, donc à savoir souvent le président, des fois la trésorerie s'il est habilité. Et puis surtout, bien penser à re-questionner l'administration fiscale quand il y a des changements, type nouvelle activité ou activité qui évolue.
D'accord. Et donc pour ce fameux rescrit mécénat, sur quoi justement l'inspecteur de la DGFiP s'appuie en fait pour traiter les demandes, pour valider ou pas ? C'est quoi les critères ?
Bien, de manière assez synthétique, parce que je ne vais pas pouvoir tout détailler dans cette chronique, il faut que l'association soit d'intérêt général. Donc l'intérêt général, c'est une gestion désintéressée, une activité non lucrative prépondérante et une absence de fonctionnement au profit d'un cercle restreint. Et il faut aussi que l'association exerce une activité dans un des caractères limitativement énumérés par la loi que vous retrouverez sur les sites internet que je vais vous citer plus loin. Le principe, du coup, ici, ça va être que le bénéfice de la réduction d'impôt n'est accordé qu'à la condition que le versement procède d'une intention libérale, c'est-à-dire sans contrepartie directe ou indirecte au profit de la personne qui l'effectue. Ensuite, le rappel pour info des avantages sur la réduction d'impôt pour les particuliers, donc c'est une réduction d'impôt de 66% des sommes versées. Pour les professionnels, on est sur une réduction de 60% dans certaines limites. Pour terminer sur les obligations et les sanctions, les obligations, ben en fait, c'est assez récent. C'est depuis la déclaration 2022 sur l'année 2021. Il faut que vous déclariez les dons qui ont reçu donc un reçu fiscal. Donc, c'est une déclaration annuelle. Et puis, donc pour les sanctions, en cas d'omission ou d'inexactitude dans les données déclarées, vous avez des amendes qui sont prévues de 150 € en cas de défaut de production de la déclaration, portées à 1 500 € en cas d'infraction pour la deuxième année consécutive. Il y a d'autres petites sanctions, pareil, je ne vais pas toutes les énumérer, mais voilà, soyez vigilants. Comme je vous l'expliquais, ce n'est pas obligatoire, mais c'est largement conseillé. Ça vous permet d'éviter ce type de désagréments.
Très bien, merci Nora. Et donc du coup, si on veut aller un petit peu plus loin et retrouver un petit peu les ressources et les thématiques que tu as abordées dans cette chronique, où est-ce qu'on peut aller ?
Alors, trois sites internet. Le site très bien fait du servicepublic.fr sur les associations. Je vous l'ai déjà cité dans la chronique, associationaupluriel.gouv.fr, le deuxième site. Et le troisième site, impots.gouv.fr. Et puis, vous pouvez aller sur notre site internet apes.org pour suivre notre actualité, puisqu'on propose régulièrement des thématiques en invitant des experts. Et la dernière fois, c'était justement sur le rescrit fiscal. On a aussi le thème de la gouvernance. N'hésitez pas à aller voir notre actualité.
Très bien. Merci beaucoup pour cette chronique fort intéressante, Nora. Je rappelle que tu es de l'APES, Association de promotion de l'économie sociale et solidaire en Mayenne. Belle fin de journée.
Merci. Bonne journée.
On relève la sauce.
Un peu de sel, un peu de poivre et quelques épices.
Et on termine cette émission avec la traditionnelle chronique histoire sur la vie associative en Mayenne avec Christophe. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Alors ce mois-ci, on va évoquer un sport bien identifié au département de la Mayenne, avec encore de nombreux clubs et de nombreuses compétitions au retentissement même national. Je veux parler évidemment du cyclisme. Alors, depuis quand les Mayennais sont-ils attachés au vélo ?
Alors, en Mayenne, le premier Vélos Club, c'est ainsi qu'on nomme les clubs cyclistes à l'époque, est fondé à Laval en 1869. Alors, c'est extrêmement précoce, parce qu'on sait que le premier Vélos Club français à être créé l'a été l'année précédente à Valence, dans la Drôme. Cependant, dans le département, ça reste pendant une vingtaine d'années plutôt une activité urbaine et qui est restreinte à Laval. Et les années 1890-1900, c'est effectivement une époque où le style de vie entre ville et campagne commence singulièrement à se distinguer, particulièrement pour les loisirs. Cela est dû principalement au niveau de vie des populations. D'une part, les modes arrivent d'abord dans les villes. D'autre part, un vélo, ça coûte cher et les hauts revenus vivent plutôt en ville.
On peut donc parler un peu d'un retard de la campagne sur la ville, mais quand a lieu finalement le rattrapage entre les deux et comment s'explique-t-il ?
Alors, le rattrapage, il est relativement tardif. Il faut attendre 1891 pour voir la création du premier Vélos Club rural à Cran. Ça inaugure une période de 15 ans où 9 Vélos Clubs, ou ce qu'on appelle aussi des sociétés vélocipédiques, sont créés dans les campagnes mayennaises, à Ernée, Évron, Renazé ou Cossé-le-Vivien. C'est un courant qui vient de la région parisienne, par opposition à la Bretagne, où le cyclisme est plus rare à l'époque. Et ce rattrapage est sans doute à mettre en relation avec l'essor de la presse et l'organisation par celle-ci de grandes courses. En 1891, par exemple, 12 ans avant la création du Tour de France en 1903, est lancé le Paris-Brest-Paris, une course de 1200 km en continu, alors que les courses préexistantes, comme le Bordeaux-Paris, se limitaient à 500 ou 600 km.
D'accord. Et donc ce Paris-Brest-Paris traverse le département de la Mayenne ?
Effectivement. Le parcours dessiné par le Petit Journal, qui organise la course, arrive du nord de la Sarthe, entre en Mayenne par Pré-Empaille, file vers Mayenne, descend ensuite vers Laval avant d'emprunter la route de Rennes. C'est donc une véritable diagonale qui effectue la course dans le département, à l'aller et au retour. C'est donc l'occasion de mobiliser les locaux sur une semaine, car si le premier effectue le parcours aller-retour en moins de 3 jours, les cyclotouristes, comme on pourrait les appeler, prennent leur temps. Ce n'est pas une coïncidence si le passage du premier Paris-Brest-Paris correspond à la floraison des premiers vélos clubs ruraux. Et la mode du vélo donc se généralise et touche désormais les populations rurales. Le Paris-Brest-Paris est la course cycliste de l'époque. Elle est d'autant plus exceptionnelle qu'elle est plutôt rare. La deuxième édition n'a lieu que 10 ans après la première, en 1901. Et là, son impact est décuplé. La presse sportive, comme le vélo ou l'auto-vélo, s'est énormément développée. La foule est, semble-t-il, très nombreuse sur le bord des routes en Mayenne en cette mi-août, et même à une heure plutôt tardive. D'autant plus que le dénouement de la course se joue entre Mayenne et Pré-Empaille au retour, et au moment où le futur vainqueur, Maurice Garat, qui sera également le futur vainqueur du premier Tour de France, laisse sur place, en pleine nuit, Lucien Lesna, celui qui menait la course depuis Paris et à qui on promettait la victoire. Dès lors, dès 1902, des sociétés vélocipédiques fleurissent également à la Pauauté, aujourd'hui ce qu'on appelle Saint-Pierre-d'Aigny, à Villaines-la-Juhel, puis en 1903 à Pré-Empaille.
Ok, mais à part justement ce Paris-Brest-Paris, qui a l'organisation plutôt exceptionnelle, y a-t-il d'autres courses cyclistes dans la région ?
Alors, tout à fait. En fait, tout Vélos Club a vocation à organiser des courses de vélo, comme le fait d'ailleurs le Vélos Club de Cran dès 1891. Cependant, on note une évolution importante de ces courses avec le temps. En 1891, les participants sont tous originaires de la commune ou des clubs alentours comme Château-Gontier, Segré, Poincet, Cossé-Vivien ou Renazé. Mais dès l'année suivante, les courses de Cran attirent des coureurs de Laval, d'Angers, qui monopolisent les premières places. Et l'édition de 1894 voit la participation de coureurs parisiens ou bretons. 96 marque une nouvelle étape. Cran accueille le champion de Normandie, mais surtout un certain Robertson, un des meilleurs coureurs anglais. Et à la fin des années 1892, en fait, les courses de Cran se sont totalement professionnalisées et les coureurs locaux, amateurs, font de la figuration en levée de rideau des courses de prestige.
Ah oui, donc gros succès du cyclisme hors Mayenne.
Alors oui et non. Oui, car la pratique se démocratise, le prix d'un vélo s'abaisse et l'achat d'un engin est devenu accessible. Non, parce que le vélo, comme sport, décline rapidement au milieu des années 1900. Le vélo est plus perçu comme un moyen de communication, comme un moyen de transport, que comme un sport. D'autant plus que ce sport s'est rapidement professionnalisé et donc il ne sert à rien de vouloir briller en tant qu'amateur. Ce que veut le public, ce que recherche le public, ce sont des pros du vélo. Et de plus, le cyclisme à cette époque est un sport totalement individuel, pas du tout tourné vers la préparation militaire. Et donc cela ne correspond pas aux attentes de l'État qui promeut des sports plus collectifs, aptes à former de futurs soldats, comme les exercices de gymnastique ou de tir. Ainsi, les vélos clubs vont rapidement disparaître, notamment avec la Première Guerre mondiale. Et le cyclisme comme sport pratiqué par chacun ne réapparaît qu'à partir des années 1930, à une époque où les sports, le football, le tennis de table, la natation, l'équitation, le basketball, explosent littéralement. Mais cela, je vous en parle le mois prochain.
Eh bien très bien, merci beaucoup Christophe encore pour ce petit éclairage historique et au mois prochain.
Au mois prochain.
On relève la sauce.
Et on termine cette émission avec un rapide tour des actualités associatives. Le temps presse. Alors, il est venu le temps des festivals, et oui, avec les beaux temps, et aussi les possibilités d'engagement pour le temps d'un week-end ou plus. Alors que ce soit pour les Trois éléphants, au foin de la rue, un Saint-Jean d'été, Bacôme Festival, Planète en fête, L'Arbre Bavard, Gazou Fest, Zéro Tapage, et bien d'autres encore. Alors, il faut se rappeler que justement, derrière ces événements et ces festivals, ce sont des associations, et donc pour accueillir tout le monde dans de bonnes conditions, compliqué de le faire avec uniquement du temps salarié. Donc, vos petits coups de patte et temps passé restent indispensables. N'hésitez donc pas à vous adresser directement aux associations concernées et parfois même des formulaires d'inscription existent en ligne. On en a parlé dans notre émission de juin l'année dernière, donc les premières démarches de labellisation pour le dispositif Guide Asso sont lancées. Donc le réseau d'appui à la vie associative locale, donc le Guide Asso, a pour objectif en Mayenne, on se rappelle, de structurer et d'appuyer les acteurs, que ce soit associations, collectivités ou institutions, etc., et services pour proposant un appui gratuit aux associations du département et à leurs bénévoles. Pour les structures intéressées, vous avez jusqu'au 15 mai pour déposer votre demande pour la labellisation Guide Asso Information, mais aussi pour la labellisation Guide Asso Accompagnement Généraliste. Alors, plus d'infos sur la rubrique dédiée, sur le site ac-nantes.fr. Les associations face à l'inflation. Donc, le mouvement associatif vient de publier les résultats de leur enquête sur l'impact de l'inflation sur le monde associatif. Premier élément de résultat de cette enquête, donc selon les associations, plusieurs facteurs ont actuellement une incidence sur leur santé financière, que ce soit pour la hausse des prix, pour 61% des associations questionnées, la baisse des aides des collectivités, pour 57% d'entre elles, les difficultés financières des adhérents, pour 56%, et la hausse du coût de l'énergie, pour 44%. Alors toujours selon cette enquête, pour 73% des associations questionnées, l'inflation a des conséquences sur le comportement des adhérents, que ce soit de la baisse des souscriptions et ou des participations aux activités, mais aussi du non-renouvellement d'adhésion. Et pour 61% d'entre elles, un impact sur les bénévoles, limitation des déplacements, réduction de l'activité bénévole, etc. Alors, par ailleurs, près de 40% justement des associations indiquent avoir déjà adapté et ou annuler des activités en raison du contexte inflationniste. Beaucoup de chiffres, beaucoup de choses, mais tout ça sont à retrouver sur le site justement lemouvementassociatif.org pour consulter toutes les données de cette enquête. Dernière info, le 5 mai, C'est l'AG de l'autre radio. Et oui, derrière l'autre radio, il y a l'autre association. Et comme toute association, nous organisons notre assemblée générale le vendredi 5 mai à 19h dans nos locaux de Château-Gontier. N'hésitez pas à passer nous voir ou si vous souhaitez découvrir les actions qui ont été menées, les gens qui sont derrière le micro et le poste de radio et les actions en 2023. Plus d'infos évidemment sur notre site. Et donc c'est la fin de notre émission. On relève la sauce. Vous pouvez retrouver évidemment l'ensemble de cette émission et les autres sur notre site internet l'autreradio.fr et surtout la page Vie associative en Mayenne. Si vous souhaitez nous contacter ou partager des informations ou annoncer un événement de votre association, n'hésitez pas, envoyez-nous un mail à contact@l'autreradio.fr ou tout simplement à nous laisser un message et surtout à laisser un message sur notre répondeur à l'attention des auditeurs au 09 70 40 59 40. Il me reste donc juste à vous souhaiter une belle fin de journée. Profitez du soleil, à l'écoute de l'autre radio et pour nous, rendez-vous le mois prochain.